Les pieds sur terre, quartier d'été.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Justice et justiciers aux quatre coins du monde, dernier volet, nous sommes en 2015 en Tunisie et c'est le moment de régler les comptes, le moment de passer de la dictature ou de la guerre à la démocratie, un processus qu'on appelle désormais la justice transitionnelle, inconnu il y a 20 ans et devenu une norme des sociétés en transition. Il y a eu les gachacha rwandaises, la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud ou encore le tribunal international de l'ex-Yougoslavie. En Tunisie, la justice transitionnelle s'appelle Instance Vérité et Dignité. Elle est chargée de recenser et d'indemniser les victimes des abus des régimes de Ben Ali et de Bourguiba. Elle a commencé à recevoir des plaintes le 15 décembre 2014 et elle a été prolongée jusqu'en mars 2019. En 4 ans, c'est-à-dire de 2014 à 2018, l'instance a entendu près de 50 000 personnes et elle a recueilli plus de 62 000 dossiers. 32 ont été remis à la justice. Après un procès, les victimes, quelles qu'elles soient, obtiendront des réparations financières ou symboliques. On essaie bien de réparer le passé et de réconcilier les citoyens avec leur pays. En 2015, 4 ans après la chute de Ben Ali, c'était le grand déballage. Des citoyens demandaient réellement justice, vérité et dignité. Nous étions allés à la rencontre de ces Tunisiens blessés dont les cicatrices attendaient la justice pour se refermer. Ils ont leurs dossiers sous le bras, des écrits et des pièces conservées parfois pendant des années. Ils ont raconté à Thibaut Cavaillès, c'est jusqu'à 14h30, les pieds sur terre, quartier d'été, justice et justicier, une émission diffusée pour la première fois le 20 janvier 2015.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Smia Abdelaziz Rouili, Mghardima.
Je m'appelle Abdelaziz Rouili, je suis de Rardimaou. Mon frère était instituteur à Tunis pendant 12 ans. Il a eu quelques soucis avec les autorités, mais a fini ses études afin de pouvoir quitter le pays. Quand il a obtenu son diplôme de professeur d'anglais, il est parti en Angleterre. Quelqu'un est venu lui proposer de rentrer en Tunisie, lui a promis qu'il ne serait pas arrêté. Mon frère a répondu qu'il ne rentrerait en Tunisie que si le régime de Ben Ali tombait. Il a disparu pendant 7 mois. Il était injoignable. Quand on a reçu la nouvelle de sa mort, les 3 policiers présents chez nous nous ont ordonné de ne pas ouvrir le cercueil. On n'a pas récupéré ses biens. On n'a pas eu la cause du décès. Je veux savoir si c'est bien mon frère qui est dans le cercueil. Si Dieu le veut, la justice sera rendue.
Assis sur des chaises en plastique, alignées, au rez-de-chaussée d'un immeuble moderne de Tunis, un numéro à la main, attendre d'être entendu, diagnostiqué, puis réparé. Comme des objets cassés. Par la dictature, par les dictatures, celle de Bourguiba, despote, éclairé, mais despote, celle de Ben Ali, enfui sans laisser d'adresse il y a tout juste 4 ans. C'était le lundi 15 décembre dernier. L'instance Vérité et Dignité ouvrait ses portes aux Tunisiens et Tunisiennes victimes des années noires. Des gens sont là pour les écouter, consigner leur passé dans de grands cahiers, avant plus tard de rouvrir les archives du pays pour enquêter. Fonctionnaire torturé, puis licencié parce qu'il était engagé dans un parti politique que le régime de Bourguiba n'autorisait pas. Militaire révoqué pour sa piété trop prononcée qui inquiétait la hiérarchie aux ordres de Ben Ali. Il y a aussi cette mère de famille, dont l'enfant opéré il y a 10 ans s'est retrouvé encore plus handicapé. Elle veut croire que c'est la faute du système Ben Ali. Pas sûr que son cas soit retenu. Des centaines de personnes le premier jour, d'autres suivront, espérant obtenir réparation de l'État. Au pied du bâtiment, un homme tient à nous parler, dans un costume beige bien trop grand pour lui. Sa cravate est mal nouée.
Bon, c'est une journée typiquement historique, avec toute l'espérance des victimes que les injustices seront effacées dans les proches moments qui viennent.
Le costume, la cravate, c'est pour la dignité d'un homme aujourd'hui cassé. En 1991, Abdelmajid Hammami, cadre dans l'armée, a été rejeté avec d'autres par ce qu'il croyait être sa famille. Abdelmajid, musulman trop pratiquant, qui pouvait déranger.
Voilà, je suis un quelqu'un, notez bien que je suis un cadre de l'armée nationale depuis un quart de siècle. Je mène ma vie avec la maigre pension qui s'élève à 100 dinars, c'est-à-dire pratiquement 50 euros. On n'arrive pas et on n'arrivera jamais depuis un quart de siècle ni à subvenir à nos besoins ni à celles de nos familles. Mais notez bien, je vis avec une copie de ma carte d'identité militaire. À chaque fois qu'elle sera usée, je fais une deuxième photocopie parce qu'ils ont brûlé ma réelle raison d'être, c'est-à-dire être un militaire avant tout. Donc, une fois ils ont effacé tout cela, j'ai voulu tout simplement garder une copie de ma carte qui date depuis 23 ans. À chaque fois qu'elle sera usée, je la remplace par une photocopie. Je vis avec cela, ce bout de paperasse, depuis 23 ans.
Qui dit donc que vous êtes militaire, que vous voilà, étiez militaire.
Oui, militaire, un sous-officier, adresse ministère de la Défense nationale Tunis.
Alors pourquoi ils vous ont révoqué?
Parce que je fais mes prières. C'est ça, tout simplement. Parce que religieusement parlant, je suis demandé à pratiquer.
Ils avaient peur que vous soyez contre le régime de Ben Ali ?
Oui, certainement. Certainement. Parce que la partie ou l'instance qui peut peut-être le déranger, c'est l'armée.
Ben Ali ?
Oui. Par crainte, donc il a donné ses instructions. Toute personne qui pratique ses prières, qui rôde les mosquées, qui est allé à la Mecque pour faire le pèlerinage, donc il n'aura plus d'existence dans l'armée en particulier et dans la fonction publique en général. Par crainte qu'on peut-être on se sympathise avec la partie islamiste. Et dû à cela, nous étions les premières victimes.
Vous avez pu vous faire une vie après ça, une famille
De quelle vie vous parlez? Une vie de chien. Quelqu'un qui se tient debout, c'est juste par respect à son orgueil militaire, sachant que dans la vie, tout est supportable, sauf l'humiliation et la perte de la dignité. Voilà. Si je peux résumer, tout est supportable, sauf l'humiliation et la perte de la dignité. J'étais recruté dans l'armée avec tout l'amour du monde entier d'être parmi les combattants de cette armée-là. J'étais prêt à tout donner pour mon pays. J'étais un exemple de ma promotion, un exemple de ma génération. Je fais le boulot de 6-7 bonhommes. Je crois en Dieu, je crois en moi, je crois en mon pays, je crois en ce drapeau-là. Mais j'étais abattu comme un chien sans rien faire. Je vous le jure, sans rien faire. Ce qui me fait énormément de peine. C'est ce qui me fait énormément de peine. Tout ce que je demande, c'est la reconnaissance de l'État. Au moment où je vois la situation dans laquelle je vis, la situation marginale, la situation vraiment qui fait de la peine, que ce soit au niveau de ma femme, de mes enfants, que je n'ai pas pu assumer ma responsabilité autant que père pour assurer leurs études. Donc, au moment où ils me posent la question, papa, pourquoi nous, on est comme ça? Au moins, je lui montre ce bout de paperasse, voilà. L'État tunisien ne reconnaît que votre papa a été mal jugé. Tout ce que je demande. J'ai 56 ans, mon passé est derrière moi. Je n'ai rien à espérer que passer le restant de ma vie dans, avec un maigre sentiment de dignité, que j'étais récompensé au moins moralement. Un jour ou l'autre, je serai récompensé par un grand Dieu qui est juste et est brave. Vous avez éveillé des souvenirs.
Ça, c'est l'attestation de sortie de prison. Ça, c'est celle de l'amnistie. Ça, c'est la carte d'identité. Et ça, ce sont des notes personnelles avec quelques points.
Vous allez nous parler un peu de ce que vous avez subi et de ce que vous demandez à l'instance.
Au mois d'octobre 1977, à 6 heures du matin, j'ai été arrêté par la police politique dans la ville de Meknassi, gouvernorat de Sidi Bouzid. On m'a emmené à Gafsa, où on m'a interrogé sur mon appartenance à un parti politique secret. Le lendemain, on m'a emmené devant l'équipe de la sécurité de l'État. Ils m'ont demandé les noms de nos cellules. Quand ils sont venus chez moi, ils ont vu des papiers attestant que j'appartenais au mouvement. J'ai dit que j'étais membre de cette mouvance, mais qu'il n'y avait personne avec moi. Il y avait des lettres que j'envoyais à la direction du mouvement en Algérie. Ils ont découvert des noms. Il fallait que j'admette, sous les coups, bien sûr. On m'a donné 12 feuilles numérotées de 1 à 12, et dans ma cellule, on m'a demandé d'écrire tout ce que j'ai fait depuis ma naissance jusqu'à ce jour.
Il porte le nom d'un résistant marocain, Abdelkrim. Abdelkrim Rabri avait des idées politiques pour son pays, mais pas les mêmes que celles de Bourguiba. Avec des camarades, Abdelkrim imaginait un monde arabe uni, un peu comme, dit-il, l'Europe aujourd'hui. Mais à l'époque, les opposants devaient se taire. Il a été emprisonné, 3 ans, torturé. Bien sûr, il a perdu son poste au ministère de l'Agriculture. Pas d'évolution de carrière, pas assez d'annuités pour la retraite, pas de moyens non plus de fuir la répression.
J'ai resté 23 ans sans passeport. Je n'ai pas pu voyager. Ma femme, elle est dans notre pays arabe, elle est morte dans un accident. Je n'ai pas pu arriver à l'enterrer, à assister à ses funérailles. J'étais emprisonné 1 mois, 4 jours. Dans les locaux du ministère de l'Intérieur, c'est la torture. Vous êtes torturé comme la façon du poulet et du mouton et les coups de caravache, etc. Ils nous rendent comme des inhumains. Je demande tous les salaires, les retraites, tous mes droits. Et je veux que tout ça sera écrit, que on ne fait pas en arrière pour que la dictature recommence. Pourquoi ils ont fait ça à notre peuple?
France Culture, les pieds sur terre.
مشوق تعرف كيفاش تكلم فاجوني سته غلاظ انشداد هزوني للطابق الثالثه والرابعه
سي تورسيونير سون فينو شيرشي اي مون امني او 3ème او 4ème ايتاج اي لا اون ما مي دان لا بوزيسيون دو بولي روتي اي مون تورتوري. Le sang sortait de ma bouche. Le soir, la torture et les coups ont continué jusqu'à ce que je dénonce le groupe. Un mois et quatre jours après, on nous a transférés vers le juge d'instruction. On nous a mis sous les verrous. Le jour du jugement, on a réalisé qu'il était procureur général. Le juge d'instruction est censé être indépendant. Et là, on le retrouve procureur général.
حكم على قضيه سنتين بعد شويه حكموا عليا في النهايه سنه سجن
vous souhaitez que soit condamné qui les gens qui vous ont maltraité ou les décideurs
les premièrement les décideurs et les gens mais je ne demande pas aller emprisonner ces gens-là mais eux aussi sont des victimes aussi mais après j'ai trouvé des gens qui sont en retraite. J'ai demandé pourquoi faire ça. Il a dit j'étais obligé ces morceaux de pain. Mais c'est pas la vérité. S'il est vraiment un homme, il doit démissionner. Ça, c'est pas un travail.
Donc, vous ne voulez pas que les gens qui vous ont frappé dans les prisons soient emprisonnés eux-mêmes?
Non. On a pardonné, malgré qu'ils m'ont torturé, m'ont emprisonné. Même ce sont mes ennemis, je ne veux plus les voir dans les prisons. Nous voulons l'excuse de l'État. Nous voulons que tout le monde, tous ceux qui ont lutté, combattu contre la dictature, leur nom doit être écrit dans un monument, dans la place de l'ancienne prison. Elle est détruite maintenant, ce prison terrible, à la place là-bas. Un monument écrit tous les noms de tous les militants des droits de l'homme et des libertés. Nous avons des monuments, ils écrivent les noms des gens qui ont combattu contre la France pour l'indépendance. Nous aussi, on a pris le relève et on a combattu contre les dictateurs. C'est très important ça. Il doit être écrit dans des livres, dans des dossiers, archivés. C'est très important pour nos enfants. Et pour l'histoire, pour que notre pays ne tombe pas dans l'avenir, dans la dictature.
Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui de ce retour de l'ancien système?
Vraiment, il y a un risque. Je vois qu'il y a un risque. Si un seul parti, le gouvernement, la présidence de l'Assemblée nationale, la présidence de la République, les ambassadeurs, les ministres, les gouverneurs, les PDG des banques d'un seul parti, ce sont les premiers signes de la rentrée de la dictature. Il y a des gens qui veulent une revanche. Les anciens régimes, ils sont infiltrés dans le parti de Béji Caïd Sebsi. Je dis ça franchement, je n'ai pas peur. Il y a des anciens dictateurs, membres de l'ancien régime. Et ils veulent rentrer d'une autre façon avec des autres habits. Mais le fond, ils sont des dictateurs.
Ça, c'est une première rencontre. Je vais prendre des infos, je vais prendre le numéro de votre carte d'identité. Après, il y aura une audition où vous parlerez plus longuement. Ils vont étudier votre dossier et tout ce que vous avez subi. Et si Dieu le veut, en fonction de cette étude, on fixera vos besoins, réparation ou ce que vous demandez.
D'accord, سي عبد الكريم بن خليفة وشيش بن حسن
s'appelle Sakri Nejib, originaire de la localité de Meknesi. J'ai 61 ans, presque 62. Tout le monde que vous voyez ici est victime. Victime de la dictature.
La sacoche en cuir de Najib Sakri est un peu comme le costume beige d'Abdelaziz, le militaire déchu. Une façon de rendre la journée solennelle, le rendez-vous important. Lui aussi travaillait pour la Tunisie, fonctionnaire au sein de la Société des Eaux. Accusé de malversation en 1992, licencié, jugé, puis innocenté, mais pas reconduit à son poste. Il devra se débrouiller. Dans sa sacoche, Najib a tout bien rangé, des papiers officiels qu'il va présenter aux employés de l'instance Vérité et Dignité.
Tout un dossier, le jugement, la lettre d'engagement, la décision de la révocation, avec tous les papiers que j'étais innocent, vous voyez. J'étais révoqué le 15 mai 1992 et j'étais réintégré le 19-10-2011 lorsqu'il y avait la révolution. Ils m'ont appelé pour être réintégré. J'ai fait une année et demie et je me suis arrivé à la 60 ans. Donc, je suis classé avec les retraités, avec 41% de mes émolutions. C'est-à-dire, je ne peux pas vivre avec. Donc, lorsque je dis révoqué, on peut pas, mais je ne peux pas aller à une autre administration, aux travaux publics ou au ministère de l'Agriculture, ou, vous voyez. Donc, je dois travailler dans le privé juste pour trouver le quart de pain pour me rassasier avec mes 5 enfants. Et jusqu'à présent, je ne me souviens plus comment j'ai passé ces 19 ans, 4 mois. Et c'était passé. Terrible. Maintenant, j'ai de l'attention. Je vis avec 19,6. Les médicaments sont très chers. Et la vie est très chère. Et avec 500 dinars. Vraiment, c'est 14.
C'est votre retraite, 500 dinars?
Oui.
220 euros.
220 euros. Mes collègues qui ont fait toute leur carrière avec 1900 dinars. C'est-à-dire 800-900 euros. Vous voyez?
Là, vous êtes à l'équivalent de 200 euros.
À 200 euros, vous voyez, avec une famille de 5, et attaqué par une maladie à vie, qui est la tension. Les médicaments sont très chers, la vie même. Et voilà. Heureusement que maintenant, ils ont fait cette administration pour écouter les gens et pour faire des instructions et au moins nous donner nos droits, vous voyez. Et louange à Dieu. Voilà, on va persister comme le froid de l'hiver et on va attendre. Et j'espère que, sans doute, qu'on va trouver nos droits, vous voyez. Si on ne va pas les trouver, nous, au moins pour nos gosses.
Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui?
Quand même, on est libre, on peut parler. C'est un nouveau moment. C'est une nouvelle vie. Lorsqu'on est libre, on est heureux, vous voyez.
Vous n'avez pas peur d'un retour de l'ancien système?
Non, non, non. S'il y aura le système qui a passé, le peuple tunisien ne veut pas croiser les bras. Vous voyez? C'est tout. Voilà.
Hari tadajmah.
Pieds sur terre, quartier d'été, justice et justicier, c'était l'instance Vérité et Dignité, un reportage de Thibaut Cavaillès, réalisé par Delphine Lemaire avec un coup de main de Vanessa Nadjar. Il était diffusé pour la première fois le 20 janvier 2015.
Shit.